France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Sur les étagères de la bibliothèque, ils ont d'abord pris place directement et discrètement près des bandes dessinées, près de Pico Bog, des cahiers d'Esther ou encore de Silex and the City. Et puis, ils se sont imposés de toute leur largeur, de toute leur épaisseur, avec sur la tranche des noms d'autrices surtout, Florence Dupré-Latour, Emma, Catel, Catherine Meurice, des œuvres engagées qui racontent la société, des œuvres esthétiques où le dessin s'offre toutes les libertés. Récemment, sur les étagères de la bibliothèque, de nouveaux romans graphiques se sont incrustés. Il y est question du corps des femmes et de la Méditerranée, des récits personnels qui bousculent sur un plan émotionnel et intellectuel. Et vous, êtes-vous friand de romans graphiques? Quels sont les albums qui vous ont marqué? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France, et vous pouvez également nous laisser un message sur WhatsApp. Nous sommes le vendredi 18 juillet, vous écoutez France Inter, Grand Bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
C'était vraiment un témoignage, j'avais besoin de raconter cette histoire. Et je n'avais pas d'autre façon que d'utiliser moi-même, parce que sinon j'aurais prétendu que j'étais historienne ou sociologue ou politologue ou je sais pas quoi. J'ai pas ce genre de science. Par contre, je suis née dans un endroit à un moment. Donc cette chose-là, c'est mon histoire.
Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup. Bruce Lee était mon héros préféré. Je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions. Pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie.
La voix de Marjane Satrapi, suivie d'un extrait de l'adaptation de son roman graphique Persepolis. C'est un plaisir d'ouvrir un roman graphique et c'est aussi une façon de découvrir des dessins et le monde. Des destins, pardon, et le monde. Lapsus. Nous allons en parler avec nos trois invités. Bonjour Victoria Caz.
Bonjour.
Vous êtes libraire et on vous retrouve au rayon bande dessinée de la librairie Le Genre Urbain. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. Vous avez lu un nombre incalculable de romans graphiques et notamment ceux de nos deux autres invités. Bonjour Aude Mermillot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Clermont-Ferrand grâce aux moyens techniques de nos confrères d'ici Paris d'Auvergne. Aude, vous êtes dessinatrice, autrice. Vous venez de publier Éclore, c'est un récit intime comme le fut votre précédente œuvre. Il fallait que je vous dise. Des albums publiés chez Casterman. Avec une infinie délicatesse, vous racontez votre histoire, votre IVG, votre rapport à la sexualité et en parallèle l'histoire des femmes, du corps des femmes, parce que oui, on se reconnaît dans votre témoignage. Et dans ce studio à mes côtés, un autre dessinateur et auteur. Bonjour Aurel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de votre dernier roman graphique, Méditerranée, histoire d'un continent kaléidoscope. C'est aux éditions Futuropolis. Oui, je sais, j'ai du mal.
Non, mais c'était très bien.
Vous avez vu, il est passé.
Parfait,
hein.
Parfait.
Un album merveilleux qui convoque, pour comprendre l'espace méditerranéen, l'histoire, la géographie, la philosophie, la linguistique et la gastronomie. Cette dernière discipline, on est d'accord, étant la plus importante de toutes les disciplines.
Bien évidemment.
On est d'accord.
Évidemment.
Et je me reconnais aussi dans votre histoire parce que la Méditerranée coule dans mes veines. Et je voudrais commencer par un détail qui se retrouve dans vos deux albums, Aude et Aurel. Aude, les premières pages d'Éclore sont des bouts de votre enfance, un bruit, une odeur, une texture, le couscous de votre grand-mère et la Méditerranée. Et Aurel, au fil de vos pages, votre enfance, elle est aussi là. C'est un festival de sens, la ratatouille de votre grand-mère et la Méditerranée. Et je me suis demandé, en vous lisant, si ce roman graphique, il n'offrait pas une liberté à vos sens. C'est-à-dire, s'il ne vous offrait pas cette possibilité de sortir des cases de la BD pour créer un autre graphisme, une autre écriture qui vous permet d'explorer tous les sens. Aurel ?
Si, bien, malgré le fait que, évidemment, faire passer des odeurs, des sons, etc. par le dessin, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle le roman graphique, qui est un terme un peu vague en soi, qui est plutôt un terme qui se rapporte à une forme plutôt qu'à un récit en particulier, un type de récit en particulier, a permis aussi d'exploser la façon de raconter, ouais. La façon de faire de la bande dessinée et d'exploser les cases, d'ouvrir, de creuser, de rechercher dans la narration graphique avec plein d'intrants, d'influences qui viennent de la presse, de tout un tas de choses. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir ce carcan de la case, voire quatre lignes ou trois lignes du Gaufrier ou de la BD franco-belge d'origine, permet d'essayer d'aller chercher autre chose, de raconter autre chose, de parfois mettre qu'un dessin sur une page,
oui, sur une page
comme
oui.
au début de l'album de Odd avec la fleur qui germe ou des choses comme ça. Bah, voilà, on se permet ça aujourd'hui.
Oui. Odd Mermillon, vous êtes d'accord ? On a l'impression quand même que sortir de ce carcan vous permet d'aller explorer une expérience sensorielle, je dirais, qu'on n'a pas forcément dans les autres bandes dessinées.
Bah alors moi j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, donc du coup le carcan je l'ai jamais trop
vous l'avez pas senti
parce qu'en fait moi j'ai commencé par un roman graphique et mais par contre j'ai pas mal d'amis qui étaient sur de la BD plus classique durant des décennies et qui maintenant basculent dans le roman graphique qui effectivement leur ouvre beaucoup de portes et notamment aussi des portes techniques. J'ai des potes qui sont passés du dessin sur papier traditionnel à l'iPad maintenant parce qu'il y a quelque chose de plus rapide aussi parfois. Je pense à Jean-Louis Tripp qui fait des pavés de 400 pages. Bah, c'est sûr que les faire sur iPad c'est plus rapide et effectivement ça permet j'ai l'impression que comme on s'est un petit peu décroché aussi d'une forme de réalisme dans le dessin, parfois dans la narration aussi, ça permet d'utiliser tout un tas d'effets spéciaux avec la couleur, avec ce qu'on veut. Donc on explose la case, mais on explose aussi les effets, les outils qu'on peut utiliser.
Oui, on va y revenir. Voilà. On va y revenir notamment sur l'utilisation des couleurs qui sont absolument magnifiques dans vos albums. Victoria Case, c'est vrai que Aurèle nous disait ce terme de roman graphique, on ne sait pas trop à quoi il se réfère. Est-ce que le mot de liberté, finalement, c'est pas celui qui caractérise le mot le mieux, finalement, le roman graphique ?
Alors si, complètement. On peut dire que le roman graphique, c'est un terme qui existe depuis assez longtemps maintenant, mais qu'en vérité, on en parle d'un point de vue plus vaste depuis 15 ans, 20 ans. Ça a été popularisé par un auteur de BD qui s'appelle Will Eisner aux États-Unis dans les années 70, mais avant lui, on parlait juste de BD plutôt pour adultes ou pour enfants. Et c'est vrai qu'Aurèle parlait du Gaufrier. C'est vrai qu'il y avait en France en tout cas, et notamment en Europe, il y avait une façon de faire de la BD qui était ce qu'on appelle le 48cc, donc 48 pages couleur cartonnées, et qui était la façon dont on construit des albums comme Lucky Luke, Tintin. Et avec l'arrivée du roman graphique, ou plutôt de sa vulgarisation par les éditeurs dans les années 2000-2010, en fait, je pense que les auteurs ont pu avoir plus de liberté, effectivement, de casser les cases, de changer les couleurs, de ne pas en mettre, de mettre du texte, d'en enlever. Et ça, en tant que lecteur, je trouve que c'est aussi une autre façon de lire la BD, parce que le rythme est complètement cassé par rapport à une habitude précédente. Et donc, on prend plus de temps, plus de plaisir aussi, je trouve, à s'arrêter sur une double page, à avancer plus rapidement juste après, pour revenir en arrière.
Ah oui, moi
ça change un peu la lecture.
On est totalement d'accord. On a l'impression que c'est une partition de jazz, les romans graphiques, dans la construction du rythme. On va y revenir. Mais Victoria Case, dans votre librairie, c'est un rayon qui se porte bien, le roman graphique ?
Alors oui, chez moi, ça se porte très bien. C'est le deuxième rayon de la librairie en termes de chiffre d'affaires.
Ouais.
Et c'est un rayon qui est en expansion constante. Donc là, je suis encore en train de réfléchir à comment le faire évoluer. Mais je dirais qu'au début, j'avais voulu garder un rayon assez fort de ce qu'on appelle la BD franco-belge, un peu patrimoniale. Et je me suis bien rendue à l'évidence que c'est plus du tout ce qu'on recherche, en tout cas dans ma clientèle. C'est pas du tout ce qu'on me demande. On me demande des récits, des témoignages, beaucoup de BD documentaires de plus en plus. Oui, on y reviendra peut-être.
Oui, de type celle que Jean Covici a fait, par exemple, c'est ça ? Quand vous parlez de documentaire, hein, quand vous parlez de bande dessinée documentaire, c'est Christophe Blin, Le Monde sans fin ou Histoire de Jérusalem de Vincent Lemire, on est d'accord ?
Exactement, ou en ce moment qui marche très bien, Champ de bataille de Inès Leroux et Pierre Vanov, et qui est sur la BD, sur l'histoire du remembrement des champs, qui est super aussi. Et c'est vrai que je pense que les gens ont de plus en plus envie soit de s'instruire par la BD, soit d'avoir des récits qui leur parlent sur une corde intime. Ce qui est bien, c'est que la BD de Aurèle, elle touche à ses deux bords, finalement, pour moi, parce que c'est une BD qui est très, très dense. On apprend énormément de choses quand on la ferme. On a le cerveau qui fourmille un petit peu d'informations.
Il faut prendre
le temps de digérer. Et en même temps, on a ce côté où il se met en scène, donc c'est très intime, il rappelle ses souvenirs d'enfance, il fait intervenir sa grand-mère. On sent un point de vue très personnel finalement sur toute cette histoire. Ouais. Et donc ça, je pense qu'on peut s'y rattacher. Et chez Aude, au contraire, il y a peut-être ce premier côté intime qui vient sur une expérience de la sexualité, du corps, du devenir femme, de sortir de l'hétéronormativité. Et en même temps, avec cette expérience personnelle, en fait, elle ouvre à des questionnements plus larges que toute femme pourrait se poser. En fait.
On est raccord, Victoria. Je vous remercie pour ce résumé, c'est parfait.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Nous sommes sur la jetée de Manhattan Beach. C'est un environnement assez méditatif. Cet endroit, c'est un peu la toile de fond de toute la création d'In Waves. Je passais des heures à dessiner ici, à observer les surfeurs. J'avais une connexion directe à tout ce que je décrivais dans le livre. L'idée que les souvenirs soient fugaces et la mémoire défaillante génère chez moi beaucoup d'anxiété. Plus le temps passe, plus on oublie. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à accepter. Le fait que lorsqu'une personne disparaît, plein de petites choses commencent à s'estomper. Le son de sa voix, son odeur, des détails de son apparence. Pour moi, le but d'In Waves était de capturer tous ces souvenirs, de les figer, de ne rien oublier, et donc, d'une certaine façon, de maintenir Kristen en vie.
Extrait d'une interview d'Eiji Dungo à propos de son roman graphique In Waves, pour lequel j'avais eu un coup de cœur. Un roman bouleversant, comme le sont les vôtres, Aude Mermillot et Aurel. Ouais, j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois en vous lisant tous les deux, et c'est sans doute ça aussi la force du dessin et des romans graphiques, parce qu'on prend le temps aussi de raconter une histoire. Dessiner pour ne pas oublier, dit Eiji Dungo. Vous vous reconnaissez dans ces mots, Aude Mermillot? Il y a quelque chose de vouloir maintenir dans le dessin, en fait, une histoire.
Ouais, alors déjà, j'ai pleuré comme une madeleine aussi en lisant ce livre. Je me rappelle qu'on me l'avait passé lors d'un festival BD et je le lisais. Et en fait, ça m'agaçait quand des gens arrivaient à ma table pour avoir des dédicaces, parce que j'étais tellement dedans qu'au bout d'un moment, je l'avais fermé en me disant « bon, c'est pas le bon endroit ». Oui, moi, je suis une flippée totale de l'oubli aussi. Donc, j'archive tout. J'ai des carnets, des journaux intimes, des trucs comme ça. Donc, effectivement, et après, ce qui est drôle, c'est qu'une fois qu'on a écrit des souvenirs et qu'on en a fait des livres, je trouve qu'il y a une espèce de confusion, parce que évidemment, on n'est pas dans de la réalité pure et dure, hein, c'est toujours une retranscription avec un choix de mise en scène, un choix de cadrage, et ensuite, bah moi, mes souvenirs sont un peu travestis par ceux que j'ai dessinés dans la BD, qui deviennent une espèce de nouvelle version officielle. Donc, de toute façon, j'oublie quand même, j'oublie d'une autre façon, quoi.
Oui, d'autant plus que le public aussi s'accapare votre propre histoire, donc je pense que ça, il y a des effets secondaires aussi, non?
Oui, et alors en fait ça c'est assez drôle, je l'avais très très fort vécu sur Il fallait que je vous le dise, donc un récit sur l'IVG, c'est que les personnes vous devenez une espèce de symbole pour eux de quelque chose qui parle d'eux-mêmes, et du coup parfois ils ont une lecture qui n'est pas du tout la même que la nôtre, où ils vont dire ah bah là vous avez complètement voulu dire ça alors que pas du tout, ils parlent totalement d'eux, et c'est une façon aussi assez chouette je trouve de se protéger contre les critiques, contre les choses qui peuvent être mal vécues des personnes, de se dire en fait ça ne parle que de l'histoire de la lectrice, et moi maintenant je mets à distance mon livre, il existe et les gens ont un rapport intime avec, qui en fait ne parle pas de Aude Mermillot dans sa vie de tous les jours, quoi.
Ouais. Aurèle, il y a deux mots que vient d'utiliser Aude, elle parle de mise en scène et de cadrage, ce qui est vraiment dans le roman graphique, je trouve qu'il y a un réel travail là-dessus. Je me suis demandé, vous qui avez déjà fait aussi de la réalisation, puisque vous êtes l'auteur du film d'animation Joseph qui avait été césarisé en 2021, est-ce que quand vous faites un roman graphique comme Méditerranée, vous avez l'impression de dessiner un film quelque part ?
Alors, en tout cas, les deux expériences se nourrissent.
Ouais.
En tout cas, ce qui est commun aux deux, c'est l'importance du rythme. Ça a été évoqué tout à l'heure, comment exploser le rythme, ralentir, accélérer au sein de la bande dessinée. Et justement, ce que permettait moins le gaufrier et que offre le... Alors on dit gaufrier juste pour préciser, c'est une image, parce que c'est quand les cases sont toutes les mêmes. Par exemple, carré, on a 9 cases carrées sur une page. Bon, voilà, ça ressemble à un gaufrier. Donc, c'est quand il n'y a pas de rythme, de cassure
de rythme,
dans le
en fait,
rythme
ouais.
de la taille de la case. Mais qui est une super expérience. Par ailleurs, c'est une autre forme de narration qui est très intéressante. Mais dans le roman graphique, on explose plutôt ce genre de façon de faire.
Et comment vous le travaillez, ce rythme, justement ? Est-ce que c'est
d'abord
au fil de l'écriture ?
Ouais, c'est d'abord à l'écriture, parce que chacun a sa façon de travailler. Dans mon cas, quand j'ai écrit mon scénario à partir des interviews que j'ai menées, ou de choses que je raconte, des moments plus intimes, mais je découpe mes pages, par exemple, à l'écrit, c'est-à-dire que je sais que cette partie du scénario sera une page, ensuite une autre page. Donc c'est le premier rythme, il est là, et dans lequel on peut venir intercaler une page de dessin, une double page de carte, voilà, pour venir aérer, pour venir casser un rythme. Et puis moi, quelque chose qui m'a été beaucoup inspiré aussi appris par le cinéma, c'est que la production cinéma est très très organisée, fait des tableurs dans tous les sens. Et moi, je travaille mes albums comme ça aussi avec un tableur, faire un chemin de fer,
ouais.
Pour avoir une vision globale et graphique du rythme. Et du type de narration que j'utilise, donc l'interview, les moments plus graphiques, les moments plus personnels.
Il faut qu'on précise, parce que je ne l'ai pas encore dit, il y a plusieurs récits dans votre récit,
ouais,
c'est-à-dire qu'il y a votre parcours pour essayer de comprendre ce que c'est que l'identité méditerranéenne, si elle existe, cette identité méditerranéenne qui semble vous animer en tout cas.
Ouais, ouais.
Vous allez à la rencontre donc de philosophes, de linguistes, d'historiens, etc. Donc le premier récit, c'est vous. On vous voit aller interviewer ces
c'est
gens.
Ça.
Voilà, on vous voit aussi dans votre vie familiale vous questionner sur cette Méditerranée. Et en parallèle, il y a le récit d'Omar, qui est un récit fictif, et qui s'intercale au fur et à mesure de l'album, et qui est le récit d'un migrant, en fait, qui va arriver jusqu'en Europe. Et il n'y a pas, en fait, les deux récits sont entremêlés, mais les deux histoires ne se mêlent pas en tant que telles.
Ouais, ouais.
Vous ne pouviez pas imaginer, de toute façon, traiter de la Méditerranée sans évoquer le problème migratoire.
Oui,
le drame de ces hommes et de ces femmes, pardon, qui meurent en Méditerranée.
Tout à fait. Moi, mon point de départ, s'il est d'un questionnement intime, mais beaucoup moins profond et grave, entre guillemets, que ceux abordés par Aude,
ouais.
Mais c'est aussi, ça part en effet d'une question personnelle et de l'enfance notamment, etc. Et qui m'amène à me poser ces questions, à mener cette enquête sur qu'est-ce que est se sentir méditerranéen,
ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que le simple fait de se poser la question a un intérêt, est problématique ou non, etc. Et je ne pouvais pas mener faire cette quête un peu journalistique, historique, mais un peu sympathique et légère, en n'évoquant pas ce qu'est aujourd'hui le drame principal de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on va à l'encontre de son histoire. La Méditerranée a toujours été un carrefour de navigation et d'échanges, et là, on interdit à certaines personnes de la traverser, ça crée des drames, et il était impossible et impensable pour moi de ne pas évoquer ce drame actuel.
On va revenir sur la dimension politique qu'il peut y avoir dans vos œuvres, entre vous, Aurèle, et Aude Mermillot. Aude, votre dessin, il est vivant, il semble bouger sur les feuilles, je trouve, parce que donc, les cadrages changent en permanence, les couleurs aussi. Est-ce que chaque couleur renvoie à une émotion ?
Ouais, alors attendez, je
oui.
retourne juste un tout petit peu sur ce que disait Aurèle,
oui.
Parce que moi j'ai lu une partie de son livre hier soir, parce que du coup je l'ai reçu en PDF hier pour préparer l'émission, donc j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je tenais à dire que du coup je l'ai aussi, je me le suis aussi un peu gardé pour plus tard, parce que la Méditerranée, c'est voilà, ma famille est méditerranéenne, donc c'est aussi elle coule aussi partiellement dans mes veines en tout cas, et je trouve que quand je lisais, justement on parlait de ce rythme. graphisme et de la construction que tu as fait de ton livre, Aurèle. Il y a, moi, au début, on est vraiment embarqué dans quelque chose de super doux avec cette famille et le travail scolaire de la fille qui râle, etc. Et je trouve qu'on se prend un 36 tonnes dans la tronche en une page. Moi qui m'a vraiment, j'étais avec ma fille, en fait, ma fille de 2 ans et demi lisait par-dessus mon épaule sur l'écran, et d'un seul coup, j'ai fermé l'écran parce que je voulais pas qu'elle voie. Et ensuite on part sur la gastronomie, donc je trouve qu'il y a une espèce de voilà de rythmique justement où on nous prend par la main et ensuite pouah, une vague arrive et ensuite on est emmené dans autre chose. Et j'ai trouvé ça hyper hyper fort, donc voilà, je tenais à te féliciter pour ça, parce que j'ai hâte de lire la suite. Du coup. Et pour répondre du coup à la question
sur les couleurs,
sur les couleurs. Alors moi, au début, la couleur c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur sur mes premiers albums. J'essayais d'être très réaliste, mais j'y arrivais pas trop. Ensuite, j'ai au contraire lâché pour qu'elle soit juste une espèce de support du dessin le plus pâle possible. Et là, maintenant, je m'en amuse avec justement ce postulat que je ne serai jamais coloriste. Donc, il y a des gens qui ont vraiment ce truc-là dans le sang de savoir comment jouer avec, s'en emparer. Moi, j'ai lâché totalement le réalisme pour qu'elle me serve à soutenir effectivement des émotions, parce que c'est là où je trouve que finalement je suis la meilleure. Et du coup, voilà, j'ai pris le postulat pour éclore d'avoir une gamme colorée par chapitrage et de vraiment venir souligner des émotions en essayant de pas non plus être trop poussive, parce que voilà, c'est pas non plus une façon de dire au lecteur bon là j'espère que
oui c'est pas un code couleur que je veux oui, que tu bien ressentes. Sûr bien sûr voilà. On met pas du violet pour dire une émotion particulière ou du jaune pour une autre, tout à fait. Victoria Case, moi j'ai l'impression que cet aspect émotionnel qu'on ressent quand on lit les œuvres d'Aurèle et de Aude, c'est un élément qui est assez récurrent dans les romans graphiques, si on exclut les romans graphiques documentaires dont on parlait tout à l'heure.
Je pense que c'est de plus en plus présent, effectivement. Je dirais que d'un point de vue éditorial, il y a deux tendances. Il y a effectivement donc les BD documentaires dont on parle avant, mais en termes de romans graphiques, il y a de plus en plus d'histoires intimes, de récits. Que ce soit des enquêtes, des très beaux récits de découverte de soi ou avec un ton plus humoristique. Je pense que c'est aussi une manière d'accrocher un différent type de lectorat et peut-être aussi une nouvelle vague d'auteuristes qui ont besoin de se raccrocher en fait, à quelque chose d'un peu commun. Et quoi de plus commun que les émotions par rapport, et surtout celles qui sont créées par le monde dans lequel on vit. Et donc pour les femmes, en l'occurrence, forcément la société telle qu'elle est, la société patriarcale fait que ça fait couler beaucoup d'encre dans le meilleur des cas. Mais moi, la BD d'Aude Mermieux me fait penser à une très très bonne BD de Julie Delporte. Alors je suis désolée, je dis BD et pas roman graphique, parce que en tant que libraire, pour moi c'est la même chose, même si on a discuté un peu de la différence tout à l'heure. Mais donc la BD Corps vivante de Julie Delporte chez Popow Édition, c'est très très beau aussi, et on est pareil sur un format très très différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Et en fait, chaque double page, c'est une émotion différente qu'elle nous amène. Et elle raconte en fait son éveil à la sexualité et surtout à son lesbianisme en fait. Et ça fait que on découvre avec elle chaque nouvelle expérience, chaque première fois. On a l'impression de les vivre ensemble, et je pense que c'est ça qui marche beaucoup maintenant en BD, et enfin en roman graphique, c'est d'attraper le lecteur par le col et de lui dire « on est là, on prend un temps ensemble, et je vais te faire vivre des émotions, des expériences, et je vais te faire sortir du quotidien ». Mais quand on revient au quotidien, on est enrichi de toutes ces expériences un petit peu.
Grand bien vous fasse. Eva Rock. Sur France Inter.
Le passé ne cesse d'expliquer le temps présent, et la réciproque est vraie. Le présent ne cesse d'éclairer le passé. On ne peut pas, en Méditerranée, ne pas être sensible à ce prodigieux dialogue d'hier et d'aujourd'hui. En effet, si l'on considère l'immense passé de la mer, celui de ces régions qui débouchent sur elle et qui trouvent dans cette rencontre les couleurs essentielles de leur vie, si l'on voit l'immensité de ce passé, on ne peut être que convaincu d'une chose évidente: la Méditerranée est, sur son passé, le meilleur des témoins.
La voix de l'historien Fernand Braudel à propos de la Méditerranée dans une archive de l'INA de 1976. Braudel qui est un personnage récurrent de votre roman graphique, Aurel.
Oui.
Nous évoquons ce genre littéraire avec vous, avec la dessinatrice et autrice Aude Mermillot et la libraire Victoria Caz. Oui, on apprend en lisant des romans graphiques, on comprend les luttes féministes, les enjeux autour du corps, les enjeux politiques avec vous, Aude notamment. Et puis on découvre une histoire, celle de la Méditerranée, dans toutes ses composantes poétiques, sociales et culturelles avec vous, Aurel. On reçoit énormément de messages d'auditeurs qui nous donnent leurs conseils. On va essayer de mettre tout
c'est
ça sur la, ouais, sur la page de l'émission, parce que c'est vraiment génial. Et par exemple, Anne nous dit, elle a connu les BD dans son enfance, La Gaffe, Tintin, Astérix, et puis il y a une quinzaine d'années, elle a lu Un printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage, une claque de découvrir un documentaire en images, un texte mis en valeur par le dessin. Depuis, je ne m'arrête plus, et quelques-uns de ses préférés, Le Piano Oriental, Pénélope Bagieu, In Waves, évidemment, Fabien Toulmé, Matou, etc., etc. Et vous êtes très nombreux à nous donner plein de conseils, on va essayer de les indiquer sur la page de l'émission. Avant de revenir sur la Méditerranée, Aurel, je voudrais juste demander quelque chose à Aude Mermillot. Dans Éclore, vous évoquez votre corps, Aude, vos pratiques sexuelles notamment. Pendant longtemps, la représentation de ce sujet, elle a donné lieu à une imagerie très érotique, je dirais, dans la bande dessinée. Vous, vous aviez à cœur de changer ce regard sur le corps des femmes. Il fallait rompre avec l'image du corps comme objet de désir.
Oui, alors c'est marrant parce que depuis mon premier... je raconte toujours ce truc parce que je trouve ça très drôle. Mon premier roman graphique, il y avait un personnage féminin et comme c'était la première fois que je faisais une BD et que je ne savais pas très bien dessiner et que tout était d'après photo, des trucs comme ça, je m'étais pris moi-même comme corps de référence parce que je m'avais sous la main. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y a eu tout un truc depuis la première interview de « Oh, c'est vraiment courageux de pas avoir dessiné une fille hyper bien foutue, quoi. Ouais. » Donc je me disais bon merci et donc ça me faisait rire évidemment parce que je leur disais que c'était moi et en fait il y avait comme une espèce d'enjeu politique à avoir dessiné une fille qui faisait pas du 36 alors que pour moi à l'époque ça existait pas trop et j'ai vu au fur et à mesure des BD que je faisais que c'était un truc qu'on me redisait à chaque fois ah bah merci de dessiner des vrais corps âgés des vrais corps de femmes enceintes voilà où on peut moi pour moi c'est évident qu'il faut le faire parce que ça crée une proximité on peut avoir beaucoup plus d'empathie avec un personnage qui physiquement nous ressemble. Mais voilà, à l'époque, un peu de façon naïve, je ne pensais pas que c'était un enjeu politique. Maintenant, je constate que ça l'est, mais un peu voilà, par défaut, parce que le reste du monde ne l'est pas. Et c'est vrai que dans l'histoire de la BD, bah, y avait une représentation de la femme qui était qui n'existait pas, en fait. Hein. C'était des femmes, j'en sais rien, moi, quand on regarde certaines femmes d'Astérix ou Natacha, hôtesse de l'air, etc.
Oui, je pense à Natacha, n'existe
pas.
Tout à fait.
Maintenant, ça, voilà, il y a quand même les femmes se sont tellement emparées du roman graphique qu'il y a toute une nouvelle image qui apparaît. Mais on est aussi passé par une case qui était très méprisante qu'on appelait le girly, où par exemple, voilà, les femmes qui ont défriché le blog et qui ensuite sont devenues autrices, typiquement Pénélope Bagieu, Digli, Margot Motin, ont été extrêmement moquées par leurs confrères masculins. Quand elles ont apparu, parce que raconter, entre guillemets, des histoires de bonnes femmes en mode journal intime, on n'en avait rien à faire. Et en plus, quand, par exemple, il y a eu toute cette polémique sur l'autrice Emma qui a vulgarisé la charge mentale, et ben, qui était considérée comme ne dessinant pas assez bien pour avoir même le droit de faire de la bande dessinée, quoi.
Et Aude Mermillot, est-ce que vous avez un peu déjà répondu à cette question, mais ce que j'entends derrière vos mots, c'est que votre récit intime, il a une visée politique, c'est-à-dire que derrière votre le jeu, se cache quasiment un manifeste, on pourrait dire ça ?
Bah, en fait, à l'époque de Il fallait que je vous le dise, c'était pas le cas. Il fallait que je vous le dise, donc un récit sur l'IVG, je l'avais un peu fait pour moi, quand même, avec quelque chose de j'ai quelque chose à vous dire et je le dis. Et quand j'ai vu l'effet que ça avait sur les lectrices, et puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment de livre qui parlait de l'avortement comme étant quelque chose dont on n'avait plus besoin de se battre pour y avoir accès. C'était plus l'émotion qu'on traverse, mais quand on n'a pas peur pour sa vie parce que c'est légal, etc. J'ai vu les centaines et centaines de messages que j'ai reçus de femmes, comment les médias s'en sont emparés, etc. Je me suis dit, ah bah en fait c'était politique et je m'en étais pas rendu compte.
Ouais.
Du coup, pour éclore, je l'avais en tête, quoi. Je savais qu'il y allait avoir énormément de femmes qui allaient le lire et qui allaient avoir vécu des choses similaires. Donc je l'ai fait avec beaucoup plus de délicatesse pour les lectrices que ce n'était le cas il y a quelques années.
Aurel, votre œuvre, elle est politique, on est d'accord ?
Vous le revendiquez, ce terme, ou pas ?
Tout est politique.
Tout est politique pour vous, ouais, c'est ça ?
Oui, oui, à partir du moment où... Enfin, oui, tout ce qui est... tout ce qui concerne le monde qui nous entoure est évidemment politique. Et le fait de prendre la parole publiquement, que ce soit avec un micro, avec une caméra, avec un roman ou avec une bande dessinée, si on raconte le réel, c'est évidemment qu'il y a une part politique. Après, c'est pas un manifeste, c'est pas un programme politique, loin de là, ni une charge militante. Mais évidemment que dans le choix des sujets, enfin des sujets, pas que l'histoire d'Omar, des sujets que je décide d'aborder, ne serait-ce que les personnes que je décide d'aller interroger, tout ça c'est des choix éditoriaux, donc c'est des choix politiques.
On parlait de la représentation du corps tout à l'heure avec Aude Vermillot. Les corps sont très présents.
Moi aussi, je représente mon corps et c'est pas forcément un corps.
C'est hyper drôle. Et alors, je trouve que, pardon, c'est hyper drôle. Ça donne des scènes hyper hilarantes. Donc, vous êtes au bout d'un moment au milieu d'une orange. Bon, je peux pas tout dévoiler, mais vous êtes au milieu d'une orange. Vous faites des acrobaties sur la plage. Bon, c'est pas toujours très réussi.
Non.
On est d'accord.
C'est assez réaliste.
Mais je dis ça parce qu'en fait, la dimension humour, elle est extrêmement importante aussi dans les romans graphiques. Plus sérieusement, il y a aussi une représentation des corps, de ces corps de migrants qui meurent en Méditerranée. C'est ce que racontait Aude, c'est-à-dire c'est dans les premières pages de votre album, et c'est vraiment, on est saisi. C'est une image qu'on ne voit pas aux infos, ces corps en Méditerranée. On a eu le petit garçon sur la plage, Elan. On n'a pas ces images de migrants qui sont de corps morts dans la Méditerranée. La bande dessinée, le dessin, vous permet de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a une mise à distance en fait.
Oui, il y a une mise à distance de fait par le dessin. Le dessin permet de raconter le réel en ne montrant pas le réel. Donc il y a une sorte de no man's land entre la représentation et le réel qui fait que chacun y plonge un peu ce qu'il a envie d'y mettre en termes de l'émotion qui lui convient, etc. Et laisse bride ou débride son imagination comme il peut le supporter. C'est ce que j'avais vu notamment avec le public dans Joseph, des gens qui avaient vécu cette histoire-là dans les camps de concentration et qui étaient contents que ça soit raconté en dessin puisqu'ils pouvaient y projeter ce qu'ils voulaient en fait. Donc là, c'est un peu pareil. Le fait qu'il n'y ait pas d'image des corps d'exilés noyés, bon bah déjà je pense que c'est un respect peu dû à l'humanité, mais aussi parce que c'est en effet très violent et que de fait je ne suis pas sûr que en photo ou en télé ça raconte grand chose. On sait tous à quoi on suppose à quoi ça ressemble. Moi, j'avais été très frappé à Arles, il y a quelques années, au Festival de photos d'Arles, par une exposition sur le génocide au Rwanda. Et c'était une exposition dans laquelle il n'avait exposé que des cadres noirs. Et il n'y avait en dessous les légendes d'agences de presse, AFP, AP, etc., qui sont des légendes beaucoup plus précises que ce qu'on voit dans les journaux sous les photos, qui décrivent absolument tout ce qu'on voit sur la photo.
Mais on ne voyait pas la photo.
Et on ne voyait pas la photo.
Il y avait pas d'image.
C'était pour interroger notre voyeurisme.
Ouais.
En disant, vous venez voir une expo sur le génocide au Rwanda, mais en fait, on vous montre pas les photos et est-ce que vous aviez vraiment besoin de les voir ?
Ouais.
Et je trouve ça super intéressant.
Quand on disait que dans votre album, vous faisiez appel à plein de choses, il y a des cartes, je me suis demandé si vous n'aviez pas envie d'être cartographe quand vous étiez petit, ou géographe.
Non, c'est assez récent comme...
C'est assez récent comme passion.
Ouais.
Il y a évidemment votre récit personnel, les souvenirs, ces interviews que vous menez. Et puis, il y a de la musique. Et on vous a fait un petit montage pour vous, mais aussi pour les auditeurs et les auditrices, de la musique avant toute chose.
Aina o ototra
Aurel, vous avez reconnu ces voix ?
Oui, je crois, notamment la dernière, qui est celle de Sylvia Pérez-Cruz, oui. qui est aussi dans la bande dessinée, en effet.
Et oui, on a entendu Yael Naïm.
Et voilà. D'accord, mais j'étais pas sûr.
Voilà,
que
mais oui, ce sont trois artistes issus de la Méditerranée, nés
exactement.
Autour de la Méditerranée, dans la Méditerranée même, et que vous interrogez dans votre album aussi.
Tout à fait, ouais, c'est plutôt sur la fin de l'album, parce que... Moi, je suis un grand amateur, si ce n'est fan de musique. Ça fait vraiment partie de ma vie. C'est une grande part de ma vie. Et pour moi, c'est l'art de l'émotion par excellence et du sensitif. Et j'avais envie d'aller poser justement à des chanteuses, donc à des professionnels de la musique, la question du sensitif et ouais. de l'émotion sur la Méditerranée, parce que c'était un peu ce qui me déplaçait depuis le début, mais je voulais pas que ça soit moi qui porte ce discours-là, et je voulais aller l'interroger, le confronter à d'autres personnes qui ont cette démarche très sensitive et leurs réponses, j'aurais pu les avoir, en fait. Mais elles ouais. étaient beaucoup mieux que si c'est moi qui l'avais dit. Puis c'était encore mieux si c'était d'autres qui le disaient. Et ce qui était très important, c'est que je n'ai pas pu malheureusement les rassembler comme Brassens, Ferré et Brel autour d'une table. fameuse photo. Mais c'était un peu ça l'idée. Mais par contre, je leur ai posé à L3 exactement les mêmes questions. Et ce qui fait que j'ai pu reconstituer, c'est là aussi le grand avantage et l'art de la bande dessinée, c'est qu'on peut mettre en scène comme on veut et reconstituer cette discussion où elles répondent toutes aux mêmes questions. Et je trouve que ce qui en ressort, c'est vraiment un beau portrait de la Méditerranée.
On ne dira pas la mise en scène que vous avez imaginée pour les réunir, ces trois femmes, mais c'est très réussi et c'est très émouvant.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Si je dessine, là, bon, 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 what, ma main, elle peut monter le long du papier, et puis tout d'un coup, wow, redescendre, et puis faire une circonvolution, et revenir derrière, revenir au début, et repartir, et remonter, et redescendre.
La voix du dessinateur Baudouin que nous recevions dans ce studio l'été dernier, au rythme de la musique d'Eric Clapton. Aude Mermillot, le dessin de Baudouin, c'est une référence pour vous. J'ai même cru comprendre que vous travaillez avec lui en ce moment, c'est ça ?
Oui, tout à fait, on fait un livre tous les deux. Bon, en fait, c'est une référence parce que c'est un peu le premier à m'avoir mis des pinceaux et des encres dans les mains que j'ai immédiatement abandonné pour le numérique parce que force était de constater que je n'étais absolument pas Edmond Baudouin. Mais oui, c'est un ami de longue date avec qui on fait un livre en ce moment chez Futuro. Ouais.
Est-ce qu'il vous fait danser tous les matins aussi ? Non.
Non, mais moi je suis prof de danse par ailleurs, donc je danse déjà.
Ah mais c'est intéressant parce que je comprends mieux toutes les scènes de danse qu'il y a aussi dans votre album, que vous représentez extrêmement bien, donc je comprends mieux maintenant aussi ce souci du mouvement. Je voudrais qu'on donne la parole à Karine qui nous appelle des Bouches-du-Rhône et qui vient d'appeler au Standard de France Inter. Bonjour Karine.
Oui, bonjour.
Alors racontez-nous votre rapport, c'est votre fils en fait qui adore les bandes dessinées, c'est ça ?
C'est ça, et comme il vit à l'étranger, il peut pas être livré par Amazon.
Ah, et donc
il s'est livré chez moi, et du coup, j'ai commencé à avoir une petite bibliothèque, et j'ai fini par avoir quand même la curiosité de voir qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée. J'étais emballée parce que, à part le fait que ça se lit très vite, donc quand on a un petit moment, on peut prendre une bande dessinée et la lire, je suis entraînée comme dans une vague, dans l'aventure, et à chaque fois c'est très stimulant parce qu'il y a à la fois l'image et le texte, et ça génère beaucoup plus d'émotions que ce qu'on peut avoir avec n'importe quel autre type de littérature, et ça stimule aussi la fantaisie parce qu'à chaque fois le graphisme est différent, la façon de narrer est différente, et j'ai découvert aussi que tous les sujets peuvent faire l'objet d'une bande dessinée, même les sujets graves comme les histoires de fuite avec le roman graphique de Fabien Toulmé. J'ai lu des romans graphiques sur des génocides, notamment le génocide arménien. Et aucun sujet qui soit de la réalité, de la fiction, ne serait pas traité. Et à chaque fois, c'est vraiment très émouvant. Et je trouve que c'est dommage que notre génération ne connaisse pas encore.
Ouais, ça va venir, ça va venir. Mais Karine, en tout cas, vous légitimez un peu notre titre d'émission qui était « Apprendre avec le roman graphique ». Donc là, vraiment, vous nous offrez une conclusion magnifique. Je vous remercie et puis je voudrais vous lire le message de Fanny qui va dans votre sens, qui nous dit « Je suis une très grande lectrice de romans, d'essais. Et quand je lis un roman graphique, quel bonheur, j'ai l'impression de voir un film, je m'y plonge. Je sais que le temps de lire sera plus court que pour un roman, mais c'est comme un moment à part que je m'octroie, une échappée belle et puissante. » Victoria Caz, vous qui êtes libraire, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages, alors je dois le dire, beaucoup de messages de femmes, et puis vous venez d'entendre Karine. Est-ce que le roman graphique a un peu redessiné le public qui vient dans les rayons de bande dessinée?
Alors oui, clairement. Je vais faire une petite aparté avant.
Oui, bien sûr, allez-y.
On a parlé d'Amazon et en tant que libraire, je suis obligée.
Mais bien sûr,
de vous avez raison. Allez acheter vos livres en librairie, qu'elles soient généralistes, indépendantes, spécialisées, même la Fnac. Mais globalement,
vous avez raison.
Un très beau patrimoine culturel en France qui est la librairie et qui fait vivre les auteurs et les éditeurs et du coup, encouragez-les autant que vous pouvez. Voilà, ça c'est pour l'instant auto-promo.
Et vous avez raison, et surtout qu'on peut avoir des conseils, notamment grâce à des gens comme vous qui lisaient beaucoup et qui lisaient tout, notamment les romans graphiques, donc vous pouvez répondre aux questions des lecteurs et des lectrices. Et donc, est-ce que les lectrices sont de plus en plus nombreuses?
Et oui, tout à fait. Alors, il y a de plus en plus de lectrices, mais en fait, je dirais qu'il y a de plus en plus de typologies de lecteurs, en fait. Parce que ce que madame disait et qui est totalement vrai, c'est que les romans graphiques se sont tellement adaptés et il y a une telle variété de récits qui sont proposés qu'en fait il y a quelque chose pour chaque lecteur qui existe finalement. Que vous soyez un enfant, un adulte, une femme, un homme, que vous ayez l'habitude de lire des essais ou des romans que vous n'ayez pas l'habitude de lire du tout, en fait il y a forcément un roman graphique, une BD qui pourra vous plaire. Et ça, c'est la beauté de ce médium, c'est la diversité. Et en plus, encore une fois, ça crée effectivement un imaginaire un peu plus grand de toujours se confronter à des imaginaires, des récits, des graphismes qui changent. Et moi, c'est ce que j'aime dire aux clients ou clientes qui viennent, c'est ne vous laissez pas avoir par un graphisme qui vous plaît ou qui vous plaît pas. En fait, ce qui importe, c'est à quel point le ton va avec ce graphisme et qu'est-ce que ça vous crée chez vous. Et c'est ça qui fonctionne très très bien en BD, je trouve. Mais pour répondre à la question, oui, il y a de plus en plus de lectrices femmes, il y a de plus en plus d'autrices femmes, enfin il y en a toujours eu, mais qui sont plus mises en avant. Et ça,
ça fait du
très,
bien.
Très agréable à voir.
Évidemment.
Et à lire.
vous savez, Victoria, tous les jours, on va terminer et on termine cette émission avec des coups de cœur. Vos conseils, chers invités, pour poursuivre cette réflexion sur le thème de l'émission. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, le plaisir qu'on a à lire des romans graphiques. Victoria Caz, est-ce que notre conversation vous a fait penser alors, à un film, un livre, une chanson, une citation, voire un roman graphique que vous avez envie de nous conseiller?
Alors, j'ai pensé à énormément de choses et en fait, j'ai trop de coups de cœur, donc je vais devoir me restreindre.
Je vous en donne que
je vais rester sur le domaine de la BD. mais je dirais, qui mêle un peu les deux BD dont on a parlé aujourd'hui, je dirais Chumbo de Mathias Lehmann aux éditions Casterman.
D'accord.
Parce que c'est une fresque politique et historique du Brésil des années 30 aux années 80. Et en plus de ça, c'est aussi un récit d'apprentissage pour deux frères qui viennent de la région du Minas Gerais et qui sont inspirés des oncles de l'auteur et qui vont vivre des aventures complètement folles. Et on est sur une BD engagée, deux frères qui grandissent de manière complètement différente. Un qui va devenir communiste et qui va se retrouver dans la guérilla malgré lui et l'autre qui va devenir en fait un peu un sale type et qui va, pareil, parler d'un faire partie d'un coup d'État.
On va mettre pas plus. On va mettre la référence évidemment sur la page de l'émission. Et vous, Aude Mermillot, vous avez un petit, ça vous a suscité quelque chose notre conversation?
Ouais, alors moi je recommande toujours le même depuis un an. C'est Archéologie de l'intime de Clotilde Delacroix. C'est un magnifique roman graphique, hyper intelligent, hyper beau. Où là, effectivement, il faut aussi avoir la boîte de mouchoirs et il faut être tout seul pour le lire. sur comment elle est devenue mère d'une petite fille très grande préma. C'est hyper beau. Et elle a cette intelligence de dessiner des émotions et de ne pas nous faire le sous-texte pour nous expliquer quelle est l'émotion. Et vraiment, splendeur absolue.
Merci beaucoup. Et vous, Aurèle, on finit avec vous.
Oui, moi j'ai pensé à un auteur espagnol que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de succès en Espagne et en France, mais qui s'appelle Paco Roca et qui a fait un album récemment qui s'appelle Retour à l'Éden. En fait, c'est un auteur qui joue beaucoup avec la forme et c'est ça que ça faisait appel un peu au début de la discussion. Et la forme, il explose beaucoup la forme et il joue beaucoup avec la forme de la bande dessinée en racontant de l'intime et de l'histoire.
Je vous remercie infiniment tous les trois. Toutes les références seront à retrouver sur l'émission, évidemment. Et nous, on va se retrouver lundi avec une émission où il sera encore question de mouvement, il sera question de danse.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.